1, 2, 1, 2. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
Bizarrement et paradoxalement, je suis arrivé à l'idée que toute musique est bonne pour faire de la possession, à condition qu'elle soit reconnue par tout le monde. Mais il n'y a pas, je crois, de musique qui posséderait un pouvoir intime essentiel de déclencher la possession.
Les possessions et trans, il sera question de tout cela ce soir dans votre émission Fétiche Continent Musique. Bonsoir. Alors que le collectif BIM, alors entendez Bénin International Musical, est en tournée en ce moment en France, on a profité du passage de ce groupe nouvellement formé entre français et musiciens béninois, dont certains sont initiés, pour se plonger dans le foisonnement musical et culturel de l'ancien Dahomey, à l'origine de bien d'autres rythmes. Alors sur ce terrain du Bénin, nous entendrons Madeleine Leclerc, conservatrice, responsable du département d'ethnomusicologie du musée d'ethnographie de Genève. À ses débuts, la jeune ethnomusicologue canadienne a marché sur les pas de Gilbert Rouget, grand spécialiste du Bénin et directeur du département d'ethnomusicologie du musée de l'Homme pendant des années. C'est lui, Gilbert Rouget, que vous entendiez à l'instant. Quelle permanence et quelle érosion entre les pratiques, les chants et les musiques vaudounes entre les années 50 et nos jours. Madeleine Leclerc nous le dira. Il sera question de culte et d'initiation aussi avec les musiciens du BIM, le Bénin International Musical, capté pour leur premier concert à Cotonou. C'était en janvier dernier, on diffusera plusieurs extraits de ce concert poignant. Mais pour commencer, un tour par les archives et ce très beau 33 tours de 1963 retrouvé dans la discothèque de Radio France. C'est la référence numéro 17 du label Okora, musique dahoméenne, avec sur la couverture un masque guélédé des Yoruba, dont Madeleine Leclerc nous reparlera.
Je m'appelle Madeleine Leclerc, je suis ethnomusicologue et je travaille au musée d'ethnographie de Genève depuis 5 ans où je suis conservatrice des collections d'instruments de musique mais également des archives sonores, des archives internationales de musique populaire qui sont un fonds assez important de musique dite traditionnelle, on va dire. J'ai eu la chance d'aller au Bénin d'abord depuis 1996. Dans ce petit pays qui est en Afrique de l'Ouest, qui a une frontière avec le Nigeria, un immense pays, où sont le berceau d'une population qui s'appelle les Yoruba, qui sont plus de 25 millions en Afrique, et l'aire de diffusion va jusqu'au Bénin et au Togo. Donc moi, je me suis intéressée aux musiciens qui sont originaires de cette région d'Afrique. On les désigne par Yoruba, mais au Bénin, eux-mêmes s'auto-désignent par le terme Nago, qui est un terme générique pour les populations Yoruba au Bénin, et plus spécifiquement, il y a des petits sous-groupes. Un de ces sous-groupes s'appelle les Icha, et un autre sous-groupe, les Ife, qui sont donc au Bénin et au Togo.
Vous travaillez aussi avec le musée du Quai Branly à Paris, ça depuis plus de 18 ans. Vous y êtes responsable d'une collection de plus de 10 000 instruments de musique en provenance d'Amérique, d'Asie, d'Océanie. Si on s'intéresse aux instruments du vaudou et à cette région du Bénin, ou en tout cas au Yoruba, est-ce qu'il faut se tourner surtout vers les percussions? Est-ce que c'est vers là qu'il faut se tourner d'abord?
Évidemment, l'idée de la percussion est assez présente en Afrique. Ces instruments sont présents, mais il se trouve que dans les rituels liés au culte des vaudous et des orishas étant l'équivalent, on va dire, du vaudou chez les Yoruba, c'est plutôt les musiques vocales. Bien sûr, les tambours sont présents, mais c'est plutôt des musiques. La spécificité, ce qui fait que ces musiques sont particulières, c'est la beauté des musiques vocales, notamment des musiques polyphoniques, quand on s'intéresse au Icha.
Alors, je voudrais vous faire entendre, justement, sur les chants, la voix de Gilbert Rouget.
Certaines de ces longues initiations qui, pour moi, sont des choses tout à fait importantes parce que c'est, à mon avis, de la musique sacrée qui représente quelque chose de tout à fait central du point de vue de l'histoire de la musique. On pourrait croire que c'est de la musique grégorienne, hein. C'est quelque chose comme ça, c'est aussi surprenant que cela. C'est une musique où il n'y a ni battement de main, ni tambour, ni instrument, qui est purement vocale, qui est une ligne mélodique extrêmement sophistiquée, avec des formes strophiques extrêmement élaborées, une musique pleine de spiritualité, une véritable ascèse musicale, une commande, une maîtrise de la technique vocale tout à fait prodigieuse. C'est une musique d'ascèse, c'est une musique très spirituelle, pleine de spiritualité plutôt. Et alors on le retrouve très peu parce que la roue du temps a passé, parce qu'il y a eu une évolution politique très importante. Le Bénin a subi des convulsions politiques avec une révolution marxiste-léniniste qui a déclaré la guerre pendant un certain temps, et une guerre dure contre ce qu'il appelait la sorcellerie et la féodalité. Et au cours de cette période, qui a duré une bonne dizaine d'années, beaucoup de choses ont disparu, bien entendu.
On entend ici la voix de Gilbert Rouget. Il faut rappeler, il est mort en novembre 2017, grand ethnomusicologue. Il a été directeur du département d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme. Qui il était et comment vous l'avez connu?
Moi, j'ai eu le plaisir de connaître Gilbert Rouget au Musée de l'Homme, où j'ai été stagiaire en 1996. J'ai pu profiter d'un accord qu'il y avait entre l'Université de Montréal et d'où je viens. Et le Musée de l'Homme, j'ai donc débarqué dans ce laboratoire d'ethnomusicologie. Et là, j'ai été bluffée par les archives sonores, l'équipe de recherche, la collection des instruments de musique. C'était absolument énorme. J'avais envie d'aller faire ce qu'on appelle du terrain, de voyager, d'aller rencontrer des musiciens, de faire des enregistrements. Et Gilbert Rouget, je l'ai rencontré à ce moment-là. Il m'a dit, écoutez, si vous voulez, moi j'ai fait des enregistrements en 1958 dans une région au centre du Bénin, chez les Itcha. Si vous voulez, je vous mets à disposition ces enregistrements, des photos également, des notes. Allez voir sur place ce qu'il en est aujourd'hui de ces musiques. Je suis donc partie avec les documents de Gilbert Rouget au Bénin, à la rencontre des Itcha, et là ça a été le début d'une grande aventure qui est toujours pas terminée.
Et ce qui a donné ce livre coffret Okora 2 CD où on peut trouver vos enregistrements et les siens. Mais alors, on l'entendait dans cette archive, il nous parle de permanence mais aussi de la roue du temps qui tourne. Alors, qu'est-ce qui s'était perdu et qu'est-ce qui reste?
Disons que dans les avec les enregistrements, il y a 5 heures d'enregistrement environ qui ont été faits en 1958 par Rouget. J'essaie de voir évidemment ce qui était resté et ce qui était perdu. Il se trouve que, pour résumer rapidement, les musiques qui sont liées au culte d'une divinité importante, d'un orisha important, sont restées d'une manière absolument étonnante, absolument les mêmes sur une période de plus de 50 ans, et j'ai des preuves puisque j'ai fait des enregistrements auprès du même groupe d'initiés. Et en comparant avec les enregistrements faits par Rouget, par exemple, un même chant a été enregistré en 58 et 50 ans plus tard par moi. Il est exactement le même, la même hauteur, le même rythme, les mêmes paroles et la même forme polyphonique, ce qui est un petit peu exceptionnel dans cette région-là. Par contre, il y a d'autres musiques qui sont pas liées à un univers religieux ou à des circonstances qui sont importantes pour l'identité de cette population, des musiques plus profanes par exemple, qui ont été très profondément modifiées. Moi, je voyais pas tellement le lien. Par exemple, il y a un répertoire qui était fait par des jeunes filles. Des jeunes filles qui faisaient des chants, des rondes chantées au clair de lune. J'ai voulu re-enregistrer des groupes d'enfants et les répertoires sont profondément modifiés. Le nom, Ayemon Ochupa, jeu au clair de lune, est resté, mais le contenu musical a été tout à fait transformé. Le, Le CD1 est consacré à ce travail de mise en profondeur historique en des enregistrements anciens, des archives anciennes et des enregistrements plus récents. Donc, la plage 5, c'est un chant qui a été le titre. Enfin, c'est pas un titre, c'est l'incipit, c'est les premières paroles du chant. Vous regardez la mort, vous la connaissez. Donc, ce sont des chants, les paroles sont assez énigmatiques. Ça renvoie à toutes sortes d'images et de thèmes qui sont développés tout au long de ce processus d'initiation. La mort, faut entendre la mort en tant que passage d'un état de vie à un autre. C'est pas une mort, l'arrêt de quelque chose, c'est la transformation plutôt. Donc ce chant a été enregistré à Pira, dans un village magnifique, en 58 par Bourget. Moi, j'ai réenregistré le même chant bon, en 96, mais je l'ai entendu également dans les années 2010, la dernière fois que j'y suis allée.
Dans quelles circonstances vous réalisez l'enregistrement? Parce que est-ce qu'il peut arriver qu'on vous accorde le droit d'enregistrer, mais par exemple de ne pas regarder, Madeleine Leclerc?
C'est déjà arrivé qu'on me dise, donc après avoir passé un certain temps, après avoir fait écouter également à ces personnes les enregistrements anciens que personne n'avait imaginé qu'ils étaient conservés, personne n'avait le souvenir du passage de Gilbert Rouget en 1958, c'était assez drôle. On m'a dit parfois, là, écoute, tu peux pas enregistrer ça. Et j'ai pas enregistré, tout simplement. J'ai écouté attentivement. Et il y a une de ces musiques que je vais jamais pouvoir enregistrer, qui était une pièce que Rouget avait enregistrée, que je cherchais désespérément, puisque c'est une pièce assez importante, qui a donné lieu à des articles et à des analyses qu'il a publiées. Mais ce chant, je l'ai entendu une seule fois, il n'a pas été enregistré. Et je ne souhaite pas l'enregistrer non plus, puisque je respecte les interdits qui sont liés à ce genre de choses-là.
Alors Madeleine Leclerc se tenait cette semaine à Paris, Le plaisir de musiquer, un hommage amical et argumenté à Gilbert Rouget, le fameux ethnomusicologue. Qu'est-ce qui s'y est dit ?
Ce qu'on retient de la journée d'hier, c'est son exigence et son implication absolument importante dans la précision, dans l'importance de la description des faits qu'on observe, la prise de contact avec les gens sur place, le fait aussi de redonner aux populations auprès desquelles on travaille les documents qu'on a récoltés sur le terrain, rendre les enregistrements, et ainsi de suite. Ça prend du temps, il faut connaître les gens, il faut que les gens vous connaissent. Il faut apprendre la langue. C'est un investissement énorme sur une très longue durée. Et c'est ça qui permet ensuite de comprendre des choses qui, a priori, ont l'air un peu contradictoires ou un peu curieuses. C'est en essayant de comprendre la logique qui est derrière ce système qu'on peut faire, à mon avis, une ethnographie qui est pertinente pour les gens, mais aussi pour l'avancement de la recherche en ethnomusicologie.
Alors Madeleine Leclerc, est-ce que ce n'est pas encore plus difficile d'établir une forme de confiance quand on est une femme et en plus une blanche, quand on va étudier au Bénin et qu'on arrive finalement comme vraiment quelqu'un de complètement étranger?
Oui, c'est juste, je reste auprès des femmes Itcha avec lesquelles j'ai travaillé, je reste l'étrangère qui est une femme extérieure, une occidentale. Mais il y a un lien qui s'est établi, et ce lien, je pense qu'il a pu être possible grâce à ces documents anciens, justement, à ces archives que Rouget avait captées et que je leur ai rendues, donc 50 ans plus tard. Il y a une confiance qui s'est établie, en tout cas, et qui m'a permis d'avancer sur une petite partie de ce qui m'a intriguée. Moi, j'ai été fascinée, j'ai été captivée par l'univers secret de ce milieu d'initiés. Je pensais qu'il y avait des secrets cachés. J'ai cherché à comprendre, j'ai traduit des chants. J'ai posé des questions improbables à plein de grandes initiées qui ne pouvaient pas répondre et ne comprenaient même pas ma question. Elles se disaient pourquoi elles posent une... Voilà. Et au fur et à mesure de l'avancement de mes recherches, j'ai compris que le fait de cultiver des secrets, de captiver l'auditoire, de capter l'attention des gens, c'est un des ressorts qui fait que ces milieux d'initiés peuvent encore exister.
Je vous fais entendre à nouveau la voix de Gilbert Rouget à propos de la transe et des musiciens. C'était en 1980 sur France Culture.
J'étais au Bénin il y a un mois et demi. J'ai longuement travaillé avec un tambourinaire qui est le tambourinaire du culte du serpent et qui, d'ailleurs, avec beaucoup de réticence, a répondu à mes questions. Il n'en avait pas envie. Il n'en avait pas envie parce que ça fait partie de son métier que de ne pas livrer les secrets du métier. Mais enfin, c'est un vieil ami, je le connais depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et il me disait par exemple ceci, cette rythmique-là, cette formule tambourinée, si on la joue, l'adepte du culte du serpent tombe en transe. Alors je lui dis, mais il tombe toujours en transe ? Pas nécessairement, me dit-il, mais si ça ne marche pas la première fois, on le joue une deuxième fois. Et il me dit, et je lui dis, et la deuxième fois, ça marche toujours ? Il me dit, non, ça ne marche pas toujours. Mais ça marche toujours si on le joue 7 fois. Ah, lui dis-je, 7 fois. Mais si on le joue 7 fois pour un homme, ça marche aussi ? Ah, il me dit non. Il faut le jouer 7 fois pour une femme. Mais pour un homme, si vous le jouez 9 fois, là, vous êtes sûr que ça marchera. Or, il faut savoir qu'au Bénin, 7 est le chiffre des femmes, 9 est le chiffre des hommes, 9 et 7, ça fait 16, 4 fois 4, ça fait 16, et tout le système de divination en rapport avec les dieux repose sur le chiffre 16. Alors, vous voyez à quel point c'est codé, n'est-ce pas ? Ce qui n'empêche pas que le musicien est tout à fait convaincu que si on a joué 9 fois la formule tambourinée, l'adepte, si c'est un garçon, va tomber en transe, il en est persuadé. Mais s'il ne tombe pas en transe, il trouvera immédiatement une explication. C'est que on n'a pas bien fait le sacrifice untel, c'est que il manquait quelque chose dans le rituel qui aurait dû précéder la possession, c'est que l'homme en question n'avait pas observé l'interdit qu'il fallait. Enfin, vous voyez, on retombe toujours sur ses pieds. Et le système tel que vous le livre l'indigène, disons au sens très large du terme, est un système qui ne rend pas compte de la vraie réalité des choses.
Il est très étrange ce terme de la vraie réalité des choses quand on parle de rituel vaudou. Madeleine Leclerc.
Moi, je le comprends comme s'il y a plusieurs réalités qui peuvent coexister. Et ça c'est quelque chose que j'ai ressenti souvent quand j'étais au Bénin, notamment avec ces initiés où on pose des questions à l'une et à l'autre. Les réponses sont différentes. Qui a tort, qui a raison? En fait, c'est plusieurs manières de vivre un même événement. Il y a plusieurs réalités qui peuvent coexister, tout simplement.
Et ce qu'il disait sur l'importance des chiffres et du code.
Moi, j'ai remarqué que chez les Tchas, c'est plutôt le chiffre 3. Le chiffre 3 et le chiffre 4 qui seraient quelque chose de structurant sur le plan de l'organisation de ce processus qui consiste à devenir initié à une divinité. L'initiation dure 3 ans en principe. Et pourquoi 3 ans? Parce qu'on m'a dit que quand un enfant naît, on considère qu'au bout de 3 ans, il maîtrise les éléments du langage nécessaires à ce qu'il puisse s'exprimer d'une manière compréhensible et comprendre également ce qui se passe autour de lui. Il y a dans ces couvents d'initiation, comme dirait Rouget, il appelle ça couvent, mais c'est un lieu secret, c'est un bâtiment dans lequel, en principe, les jeunes filles vont être enfermées pour 3 ans. En faisant le travail d'analyse que j'ai pu faire avec les enregistrements sonores, il se trouve que c'est une polyphonie vocale qui a 3 parties. Il y a 3 voix qui font des mélodies simultanées, mais différentes, et chacune de ces voix est nommée d'une manière assez précise. Donc le chiffre 3 semble être quelque chose d'important dans la structuration de ce rituel.
Et par exemple, qu'est-ce qu'on entend dans les chants de Guélédé au Bénin, et qu'est-ce qu'il s'agit de célébrer ?
Les chants de Guélédé, c'est un répertoire qui est très intéressant. Du point de vue musical, c'est un des seuls répertoires pour lesquels il y a à chaque année une composition, une réelle composition. L'objectif du rituel, c'est de dénoncer à mot couvert des choses qui ont été... faire un peu le bilan sur l'année, s'il y a eu des problèmes, des gens à qui on peut reprocher certaines mauvaises actions, des choses comme celle-là. C'est le moment de faire le point sur tout ça. Donc, on recompose à chaque année des chants avec des paroles qui sont subtiles, qui dénoncent ce qui a été fait, sans pour autant nommer les personnes ou celui à qui le chapeau fait doit le porter, tout simplement. Donc c'est un rituel qui est fait plutôt par des hommes qui ont été initiés à ce culte-là, mais quand on parle d'initiation, c'est tout à fait différent d'être initié à une divinité. Il n'y a pas de divinité derrière le Guélédé. C'est plus une organisation sociale plus terre-à-terre, plus pragmatique également, et plus accessible pour la plupart des villageois qui assistent à ces énormes manifestations où là, c'est tout le village qui est convoqué pour une nuit de Guélédé qui est assez drôle et assez éprouvant en même temps. Et c'est sur un temps très très long, on attend, on est toujours dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va arriver, pour quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, est-ce que d'ici la fin de la soirée, je vais passer moi aussi un mauvais quart d'heure en ayant été surpris ou dénoncé sans que je m'en rende compte, et ainsi de suite. Et c'est très exubérant, donc des gens portent des masques absolument fantastiques et monumentaux. Ils sont habillés avec des costumes très très larges. La musique joue toute la nuit, donc c'est une nuit un petit peu mémorable, je dirais.
Pour en revenir aux divinités, quelles sont celles qui vous intéressent, puisqu'il s'agit souvent en fait de parler de la fécondité ou de la terre, de choses.
Le panthéon des divinités vaudou ou orisha, qui est à peu près l'équivalent. C'est un panthéon qui est multiple, qui n'est pas toujours le même d'un endroit à l'autre. Il y a des divinités locales et il y en a d'autres qui sont connues par tout le milieu des Yoruba, comme par exemple Sakpata, la divinité des maladies contagieuses, Ivioso et d'autres divinités comme ça qui sont connues sur des grands territoires. Celle à laquelle je me suis intéressée et qui me captive encore, c'est une divinité qui s'appelle Nabuku. C'est une divinité... Alors, les divinités sont considérées comme étant des êtres humains qui ont vécu sur Terre, qui ont eu un destin exceptionnel. Après leur mort, ces personnes sont devenues des... Les âmes restent sur place, mais sont devenues des ancêtres pour lesquels on s'est remémoré un certain nombre de choses marquantes du temps de leur vivant. Et avec le temps, ces ancêtres sont devenus des divinités. Donc les divinités ont des traits de caractère comme vous et moi. Certaines sont colériques, d'autres sont gentilles, certaines sont douces, d'autres sont impétueuses. Et c'est assez intéressant de voir que les initiés qui sont dédiés à ces divinités prennent les traits de caractère. Nabuku, auprès de laquelle j'ai travaillé, c'est une divinité qui est l'archétype de cette divinité. C'est celle d'une grand-mère qui est très bonne, un peu trop bonne même, qui est très douce, compréhensive et un petit peu trop parfois indulgente. Donc les femmes qui sont initiées à cette divinité sont comme ça. Si je faisais le choix d'être initiée, ce que j'ai pas fait, ce serait sans doute à cette belle divinité que je serais initiée.
J'en reviens aux instruments, puisqu'il y a certains, vous l'avez dit, c'est surtout par le chant que tout cela passe, mais il y a aussi des percussions qui vont être propres. Vous m'en montrez une ici. Oui. Alors.
C'est un instrument assez particulier, hein, c'est un lamellophone qu'on connaît souvent sous le nom de sansa.
Mais là, il est immense.
Et là, pour le coup, il est tellement énorme que le musicien doit se placer sur une chaise à côté de l'instrument. C'est une grande boîte à rythme, en fait, qui fait 1 mètre de long par 70 centimètres de large, sur lesquelles il y a 4 lamelles très épaisses qu'on pince. Donc en pinçant chacune de ces lamelles, évidemment, ça donne quatre sonorités différentes, très graves. C'est comme une sorte de basse, un instrument de basse.
Par exemple aussi, il y a des percussions qu'on peut entendre dans le groupe Bénin International Musical, le kpézin, le sakla, kpalé, et même il y a aussi une percussion qui est double. Et les musiciens m'expliquaient qu'il était lié à ce qu'on appelle les ibéji.
Oui, oui, c'est le culte des ibéji, c'est les jumeaux. Donc il y a un culte important aux jumeaux d'une manière générale au Bénin, chez les Fon, les Gou où Rouget a travaillé, dans le sud du Bénin, mais également chez les Yoruba. Et il se trouve que dans cette région d'Afrique de l'Ouest, c'est un des lieux sur la Terre où il y a le plus haut taux de gémellitude. C'est très fréquent d'avoir de rencontrer des gens qui sont jumeaux, qui ont des jumeaux. C'est assez étonnant et on le voit parfois dans certains villages où il y a des marques, il y a deux petits hôtels qui ont été construits près de la maison, donc deux petites bosses, deux petits amas de matière qui sont près de la porte d'entrée. Ça marque le fait qu'il y a des jumeaux et c'est... Moi, j'en ai vu très fréquemment et quand j'ai demandé ce que ça signifiait et qu'on m'a expliqué ça, que c'était pour les jumeaux, j'ai donc conclu que presque dans chaque famille, il y a des jumeaux. À un moment ou un autre, il y a eu une naissance de jumeaux. Ça, c'est étonnant.
Madeleine Leclerc, merci.
Merci à vous.
On se quitte avec une pièce du répertoire Ago, enregistrée en février 1999 à Doumé, au Bénin. Le texte qu'on vient d'entendre peut se résumer comme suit. Faisons en sorte que nos prochains soient heureux. Qu'est-ce qui rend heureux? Mes amis, c'est le travail qui libère l'homme et rend heureux. Travaillons donc, nos échecs ne doivent pas nous décourager et nous serons heureux. Voilà les notes à retrouver dans le coffret Bénin Musique Yoruba, les voix de la mémoire, c'est édité chez Okora.
France Culture,
Continent Musique,
Mathieu Conquet.
Et on se tourne maintenant du côté de Cotonou, où en janvier dernier se tenait le premier concert du Bénin International Musical, le BIM, qui associe des rythmes vaudous, des chants traditionnels, des mélodies électriques, mêlées à une approche globale musique. Vous entendrez le producteur français Jérôme Ettinger, le batteur et chanteur Jimmy Bella, Nahiel Okoko, qui, non contente d'être une divinité, est aussi une princesse. Elle vous expliquera pourquoi. Le rappeur Ewe Yeton, Brigitte alias Amesiamé. L'ouverture du concert donné au Théâtre de Verdure à Cotonou, c'était Achika Wogo.
Léo Kulissa. Aïe, d'un grand temps, tout d'une aïe, 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 aïe. Aïe, d'un grand temps, tout d'une aïe, aïe, aïe.
Donc, je suis Jérôme Ettinger, directeur artistique du Bénin International Musical, un projet qui rend hommage au patrimoine musical béninois. Un projet qui a été initié par Hervé Reason, qui m'a proposé de mener cette direction artistique. Quand il m'a proposé de me lancer dans cette aventure béninoise, moi j'étais assez surpris qu'on me propose un pays où je connais pas vraiment la musique en fait. Du Bénin, quand il m'a parlé du Bénin, je me suis dit mais quelles sont les musiques au Bénin ? Et forcément, j'ai été m'immerger. On est partis tous les deux là-bas, à Cotonou, pendant une semaine, pour justement découvrir les parfums béninois, pour découvrir l'ambiance, la musique, les gens. Et là, on s'est vraiment pris une claque en découvrant. Alors lui, il déjà connaissait, il y était déjà allé. Et c'est pour ça qu'il avait cette envie de projet. On a découvert vraiment, enfin moi j'ai découvert vraiment que le Bénin, c'est les racines, c'est la souche de beaucoup de musique actuelle en fait. Quand on entend la salsa à Cuba, la salsa vient du Bénin. Là-bas, il y a des orchestres de salsa à tous les coins de rue. Quand on entend les musiques de cérémonie Yoruba, Salvador de Bahia au Brésil, c'est pareil, ce sont tous les esclaves qui ont amené ça. Les fanfares à la Nouvelle-Orléans, tout le vaudou à Haïti aussi. Il y a beaucoup de racines au Bénin qui font forcément amener le jazz, le rock et le hip-hop, etc. quoi. Donc je trouvais que c'était un projet très intéressant et culturellement hyper riche en fait. Quand on va à Cotonou, les gens sont très croyants. Il y a beaucoup de chrétiens, de protestants célestes. Et du coup, quand on va à l'église, on a du funk, on a de la grosse trance vaudou. On a des chants gospel, on a des chants magnifiques de polyphonie. Et tout ça dans une église, quoi. Et j'ai découvert que quand je parlais avec Jimmy, le batteur, chanteur, guitariste du BIM, il me disait, mais moi, j'ai appris la musique à l'église. En fait, dès tout petit, à 4 ans, j'étais déjà derrière une batterie et puis je jouais, quoi. Et après, un jour, j'étais dans le studio un peu nomade. Et un jour, je rentre et j'entends Jimmy qui faisait de la guitare et qui chantait. Putain, mais Jimmy, tu chantes ? Il me dit, oui, comme ça, je chante. Et en fait, c'est vraiment pour moi une des très, très grandes voix, futures grandes voix d'Afrique. Vraiment, il est extraordinaire. Et il joue de la guitare très bien. Enfin, voilà. Et j'ai découvert Jimmy, en fait, comme je disais, la pratique à l'église. Le gars, il est guitariste, il est batteur, il est chanteur, il est trompettiste, il est chef de chœur. Donc, il a une maîtrise vraiment de la composition, des arrangements. Et d'ailleurs, il est très connu maintenant au Bénin parce qu'il a fait ça. Il a joué avec l'orchestre du Polyrythmo de Cotonou, donc qui est quand même un orchestre mythique à Cotonou. Et nous, c'est des amis. Hein, tous ses membres, enfin les trois membres fondateurs, on va dire, qui sont présents. Donc, Jimmy, voilà, c'est quelqu'un avec qui, dans le BIM, qui collabore vraiment dans la composition. Et ce qui est intéressant, c'est que. C'est une merveille, c'est un trésor. Il détient en lui vraiment un trésor du patrimoine béninois, mais son trésor à lui aussi, puisqu'il a sa patte.
Yeah.
doué.
Jérôme Ettinger.
Moi, j'ai ce respect aussi bien quand je travaillais avec les artistes des Gypsum Project. On ne doit pas abîmer leur patrimoine. Si ça les dérange, s'ils ne veulent pas intégrer une rythmique vaudou parce que c'est cultuel, parce que ça ne se joue que dans les couvents, il n'y a pas de souci. Il faut que les artistes qui travaillent dans le BIM se sentent libres. Et ils doivent respecter mon travail et moi, je respecte leur travail. Et nous, dans le groupe, il y en a un qui est initié vaudou, le percussionniste, Émile Totin. Les autres ne sont pas initiés vaudou, mais ils sont tous vaudou. C'est-à-dire que le vaudou, on a d'un côté l'aspect cultuel, où on le pratique dans les couvents. Il faut être initié pour rentrer dans les couvents. C'est-à-dire que si on n'est pas initié, on ne rentre pas dans un couvent pour les cérémonies. Mais il y a l'aspect aussi culturel. Émile, il n'y a aucun souci, on joue des rythmiques vaudou, on chante des chants vaudou dans le BIM. Et tout le monde les chante, et tout le monde est respectueux de ça. Et par exemple, je prends un exemple, quand on était en résidence à la fabrique à Nantes, à un moment donné, il y a Émile qui... Parce que Émile n'est pas chanteur, mais moi j'aime les chants qui m'emmènent, même si c'est roots, et quand il chante des chants vaudou, je peux vous dire que ça vous amène vraiment très, 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 très loin, quoi. Et à un moment donné, il s'est mis à chanter, il s'est mis à danser, et je voyais Naël, une des chanteuses, qui était en train de fondre en larmes, elle était en train de pleurer. Et jamais elle avait vu ça, en fait. Elle dit, mais j'ai jamais vu Émile comme ça montrer le vaudou. Et le vaudou, c'est un signe d'humilité, de paix, d'amour, de respect pour la nature. C'est pas du tout la sorcellerie qu'on en croit. Il y a forcément des dérives, comme dans toute religion. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que le vaudou, il est fédérateur. Et que pourquoi au Bénin, c'est un pays qui est stable, est-ce que ça serait pas le vaudou qui ramènerait cette sagesse?
Bim! Bim! Au Bénin! Internationally, oh, musically, mi oso jage, mi to nuna dosi, mi to nuna dosi, bo vodu no hohole, o vodu no takbo unole, bo mi ho omala, o vodu sakbata, o vodu oro, o vodu kuvito, o godu dan, o vodu ogu, o vodu mami wata, bo mi to nuna ho. Boto nuna dosi, yeni wa wanyo nami. O mina to nuna fe kome, fe kome, fe kome, fe kome, fe kome, fe kome, fe kome. Emilo!
Moi, c'est Brigitte, alias Amesiame. Donc, je suis chanteuse. Le projet BIM est arrivé il y a environ 2 ans.
On m'avait dit Brigitte, alias
Amesiame. Le nom d'artiste, c'est Amesiame.
Qu'est-ce que ça veut dire, Amesiame?
Amesiame, c'est un mina dans ma langue, à moi. Amesiame, ça veut dire tout le monde. Au fait, c'est pas, je ne peux pas être tout le monde, moi, seul. Tu vois, je ne peux pas être toi, ni Jean-Paul, ni Jérôme. Donc, c'est juste une façon de dire, je fais une musique au cœur duquel tous les âges, toutes les religions vont se retrouver. C'est-à-dire une musique qui est un partage à travers les âges, donc un tout petit peu danser au son de ma musique, un vieux comme Jean-Paul peut y danser aussi, tout comme toi. C'est ça, je fais danser tout le monde. C'est ce que ça veut dire en fait, Amesiame.
Est-ce que j'aimerais parler des chansons qui font le répertoire de BIM. Mm-hmm. Il y a une chanson qui s'appelle Héritage. Qu'est-ce qu'elle dit?
Cette chanson est en Nadia. En Nadia, cette chanson veut dire... Héritage, comme ça se dit, mais beaucoup plus explicite, de façon plus explicite, ça veut dire c'est nos racines. C'est l'héritage que nous ont laissé nos parents. Donc, on a le devoir de, comme on dit, le jargon qui dit, c'est autour de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, c'est une façon de dire, nous continuons ce que nos parents, nos ancêtres nous ont laissé en fait. Donc de ne pas lâcher, de persévérer pour que la musique béninoise puisse aller au-delà des frontières, en fait. C'est ce que ça veut dire.
Vos parents, ils faisaient de la musique?
Moi, mon grand-père paternel était chanteur. Au village, par exemple, on fait des troupes, on chante, ça danse et tout, il était chanteur. Après ça, mon frère est chanteur, il était chanteur, maintenant il ne chante plus. C'est grâce à mon frère, en fait, que je me suis lancée dans la musique. C'est lui qui m'a fait intégrer dans le tout premier groupe que j'ai intégré au Bénin.
Est-ce que ce projet, BIM, c'est faire connaître, si je vous écoute bien, c'est faire connaître la musique béninoise à l'étranger? Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'impression que pour faire connaître la musique béninoise à l'étranger, il faut un petit peu, il faut la ranger, il faut la rendre plus simple, il faut la transformer? Ou finalement, c'est assez fidèle à ce que vous faites?
La musique béninoise telle qu'elle est, elle est consommable. elle est exportable. Mais tu sais, nous sommes à une ère où la musique, ça, tu sais, dans toute chose, il y a une mutation. Donc, du coup, on ne la sert pas crue comme elle est. Donc, on l'essaye de façon à la pimenter, à l'assaisonner, à la façon de Jérôme Ettinger qui essaye de fusionner avec la musique électro. Voilà. Donc, du coup, c'est une fusion entre la musique traditionnelle béninoise et la musique électro que Jérôme nous propose, en fait. Donc, c'est sur cette base qu'on essaye de mettre la musique béninoise de façon crue ou bien de façon assaisonnée et pimentée, si je peux m'exprimer ainsi.
Moi, c'est Kwenu Betoyon Jean. Et mon nom d'artiste, c'est Yewe Yeton. Je viens du Bénin. Je suis rappeur, chanteur, percussionniste. Je fais partie du duo Diflex et du collectif BIM.
Comment est-ce que vous avez rejoint le collectif BIM?
C'est pas une rencontre avec Jérôme et à travers un casting aussi qui a été effectué à Cotonou. Et puis j'ai été sélectionné parmi les sept musiciens et chanteurs du groupe, du collectif BIM.
On parle plusieurs langues au Bénin. Dans quelle langue chante BIM?
Okay. BIM chante dans beaucoup de langues parce que les sept musiciens et chanteurs du groupe viennent de différentes régions du Bénin. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de rapper en fon. En fon, qui est la langue la plus parlée au Bénin, et tout, à part le français. Donc, c'est la langue la plus populaire. À part ça, mais, moi, je viens de la vallée de Louémé, et on parle chez moi la langue goun. Donc, on chante en goun, on chante en fon. BIM chante en nadja, en yoruba. Et en français aussi, parfois, et tout, en mina, voilà, donc c'est beaucoup de langues, bien sûr.
Vous êtes de quelle région exactement?
Je suis de la vallée de l'Ouémé, je suis du sud-ouest. La ville qui est proche de qui est dans ma région, c'est Porto Novo. Voilà, donc je suis à gauche de la ville, mon village est à gauche de la ville, c'est un village lacustre. Ça joue, ça danse. Tous les week-ends, c'est du à gauche chez moi, et puis la réjouissance à fond, voilà un peu.
Vous avez une cicatrice au visage, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un signe?
C'est un signe chez moi, ça veut dire en langue locale, abiku, ma cicatrice. En fait, ça se fait aux enfants qui sont nés après les morts nés. C'est une tante à moi, c'est pas directement ma maman qui faisait des enfants, mais à un an, ou à 9 mois, à 6 mois, les enfants décèdent. Donc, pour éviter ça, on fait cette cicatrice à tous les enfants qui sont des bébés de la maison, pour éviter que d'autres partent. Donc, ça se fait lorsque ma tante là, a eu son dernier bébé, qu'on a fait ça à tout le monde, et puis cet enfant est resté. Moi aussi, je suis resté, et puis voilà. Donc ça empêche la mort, ça empêche le décès des bébés, ce cicatrice-là. Ça se fait avec un objet tranchant qui est rituellement utilisé, et puis il y a une poudre qu'on met dedans, et puis voilà, et ça reste.
C'est la marque du survivant, en fait.
Bien sûr, voilà, c'est la marque du survivant, et puis partout où on passe, et tout, on est protégé, et tout ça, voilà.
Tashino meneo, tashino meneo. On m'appelle Nayel Roko. À l'état civil, je suis Nadège Yeloasi. Roko, c'est voudrait dire jumelle, enfant. Donc, je suis jumelle. Mais chez nous, les jumelles sont comme des divinités. Et donc, Ibeji, en Yoruba. Donc, je suis une divinité. En plus d'être une divinité, je suis une princesse parce que je suis d'Abomey. Et je suis une arrière petite fille du roi Béanzin. Je suis venue à la musique parce que mon papa est un chanteur de salsa. Je le voyais faire dès le bas âge. J'ai commencé par chanter. Vi on a dit nous comment, mayon non si si nous con. Vi on a dit nous comment, mayon non si si nous con. Oh oh vi kabli kojo, mayon non si si nous con. Et mon yé kaka kaka bokwe chudo. Et mon yé kaka kaka bokwe chudo. On vit ouais mille mon djine. On vit ouais mille ans mon dîner. Donc c'est ce que j'avais improvisé dans le temps. Et ce qui m'a encore épaté plus dans Bim, je n'ai jamais rappé dans ma vie, mais avec Bim, j'ai appris à rapper. C'est un jour on faisait des créations et Jérôme m'a dit mais tiens Nayel essaie quelque chose sur ce titre là, essaie de rapper. J'ai essayé avec son aide, j'ai pu m'en sortir et du coup depuis ce jour j'y ai pris goût et je rappe avec plaisir. Quand je rappe, je me sens à l'aise.
Il y a plusieurs morceaux au répertoire de Bim. Miwahe ou Tuntun.
Ok, Tuntun voudrait dire petit à petit. Petit à petit l'oiseau, comme le dit l'adage, petit à petit l'oiseau fait son nid. C'est ce que voudrait dire Tuntun aussi. Et quelles que soient les difficultés qu'on rencontre sur nos chemins, avant d'atteindre nos objectifs, on doit persévérer, on doit toujours avoir confiance en nous et dire que c'est la réussite ou rien. C'est ce que voudrait dire Tuntun.
Bonjour, moi c'est Jimmy Bella, Ashika. Je suis musicien, batteur, chanteur, guitariste. Membre du groupe BIM. Voilà.
Jérôme me dit, vous êtes batteur, mais Jérôme me disait que vous étiez devenu chanteur dans ce projet, vous ne l'étiez pas au départ.
Ben, c'est vrai que je suis venu dans ce projet en tant que batteur. Et c'est au cours des sélections que Jérôme me disait que est-ce que je pourrais fredonner quelque chose. Et là, je commence par fredonner.
Nitalo, enyei ujima. Nitalo, enyei yeima. Membo li chande, utashi ude. Inyeli, iuva somane.
Voilà, merci.
Ça veut dire quoi, ce qu'on vient d'entendre? Et en quelle langue?
C'est en langue Adja. C'est la langue de mon village.
Vous allez donner votre premier concert en France, ici. Qu'est-ce que vous écoutez peut-être qui soit français?
C'est vrai que j'écoute beaucoup de musique, mais j'aime la musique rock. Ah ouais, j'aime la musique rock et le pop français, le rap, tout ça là, j'écoute beaucoup.
J'ai lu récemment, il y a un article qui parlait de vous dans Rolling Stone, le magazine, et qui disait, en bas de l'article, il disait que Fela avait inventé l'afrobeat à son retour du voyage de Cotonou. Mais c'est vrai ça?
Ah, quand j'entends les polyrythmos, j'entends déjà de l'afro. J'entends de l'afro, j'entends de l'afro, je me pose toujours des questions, je dis... Mais comment se fait-il que ce fait-là qui a plus joué ce morceau-là ou bien qui a plus imposé ce rythme? Mais les gens me disent non, c'est pas Fadel, mais c'est plutôt le Bénin que dans les rythmes traditionnels. Il y a un rythme qu'on appelle chez nous Gogorum, mais quand tu entends jouer ce rythme, c'est que c'est plus afro.
Il fait comment ce rythme?
C'est afro. Donc c'est la batterie. Eux autres, ils utilisent les percussions vaudou. Et puis la batterie chez Fera. Je me dis que ah bon. Là, ça vient du Bénin. Voilà.
Puisque vous allez bientôt être les prochaines stars de la musique béninoise, moi, il y a quelques musiciens béninois qu'on peut connaître. Danielou Sagbouran.
Ah oui, papa Danielou Sagbouran, c'est une icône de la musique béninoise. Ce papa m'inspire beaucoup dans mes compositions. Il est connu par tout le Bénin. C'est un grand artiste. Il est venu ici plusieurs fois à faire des concerts, je crois. Sinon, c'est un grand artiste de béninois.
Yeah. yonu yonu sunu le ma yimi no ya unyu e bobi no do ya roji bono do jiwe e wa te na mo ni wa e o ya de na sunu le no do jiro yonu yonu sunu le ma yimi no ya unyu e bobi no do ya roji bono do jiwe.
L'incontournable Daniel Lou Sakboan, le chanteur et batteur béninois qui a reconnecté l'esprit original vodoun au jazz. Daniel Lou Sakboan, voilà, discographie un peu éparse et pas toujours facile à retrouver, mais en cherchant bien vous devriez y parvenir. Et Continent Musique touche presque à sa fin pour ce soir. Merci à tous les musiciens du groupe BIM, Bénin International Musical, pour leur disponibilité pendant les balances du concert qu'ils donnaient à Radio France. Alors je précise que vous pouvez réécouter l'émission concert Okora Couleur du Monde qui était diffusée le 7 avril dernier sur France Musique. Et puis si vous êtes du côté d'Orléans ce soir, eh bien sachez qu'ils jouent à 21h à l'Astrolabe. Le concert est gratuit. Merci à Jérôme Ettinger et à Hervé Rizen à l'origine du projet. La prise de son du concert de BIM enregistrée à Cotonou est signée Jean-Paul Roman. Un grand merci à Madeleine Leclerc. Vous retrouverez une partie de son travail d'ethnomusicologue dans le livre « Disque, Bénin, musique Yoruba, les voix de la mémoire » qui est édité chez Okora, à la collection Okora de Radio France, qui vient d'ailleurs de publier un coffret 6 CD qui promet un voyage musical autour du monde. Pour aller plus loin, je vous recommande également le site du CREM, le Centre de Recherche en Ethnomusicologie, où vous trouverez de nombreuses archives en ligne. Il y a même une carte sur laquelle vous pouvez vous balader pour aller retrouver des sons, c'est passionnant. On se quitte avec une avant-première, Vodou Game et Peter Solo, qui enregistrent en ce moment au Togo son prochain album dans le studio Autodi de Lomé. Petit aperçu d'un mix de travail.
De la même chose, la chose qui s'est passée la fois dernière, la chose qui s'est passée la nuit précédente, c'était la même chose qui s'est passée dans les années 40. La chose qui se répète à nos yeux disparaître, puisque tout le monde s'en fout, puisque tout le monde fout rien. Sur les réseaux sociaux, on la regarde, et à la télé, c'est la même chose.
Vodou Game, la chose, écoute en avant-première d'un extrait de l'album en cours d'enregistrement en ce moment à Lomé, au Togo. Merci à Julien Lebrun qui nous a fait parvenir cet extrait en dépit des aléatoires du Wi-Fi. Le prochain album de Vodou Game devrait sortir en novembre 2018 chez l'excellent label Hot Casa. Toutes les informations et la programmation musicale sont à retrouver sur la page internet de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute et le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez tout et c'est gratuit. Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration indispensable de Pascaline Bonnet et la réalisation d'Olivier Guérin. À la prise de son ce soir, Anthony Thomasson. Merci à Annie Lozana Delinard et Antoine Villoz, ainsi qu'à Jacques Denis. Les programmes continuent. Restez en bonne compagnie sur France Culture. Bonsoir.